Et on va rester dans la thématique de l'antisémitisme, bien malheureusement, ai-je envie de dire, puisque la question qu'on vous posait hier était la suivante. La France insoumise est-elle, selon vous, le premier parti antisémite de France, oui ou non ? Vous étiez nombreux à vous exprimer et Galina Elbaz, avocate et vice-présidente de la LICRA, vous parle et nous donne son avis sur cette question, puisque le problème de l'antisémitisme s'invite donc dans la campagne électorale en France pour les législatives, dont le premier tour aura lieu ce dimanche. Apparemment, ça devient un véritable enjeu. Qu'en pensez ? Voici l'avis de Galina Elbaz.
Galina Elbaz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente de la LICRA et avocate. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Judaïka. Alors, dans le cadre de notre segment La question du jour, nous avons demandé à nos auditeurs si, selon eux, LFI, le parti d'extrême gauche en France, était le premier parti antisémite de France. Et on aimerait votre avis également sur cette question. Alors, on ne va pas rappeler le contexte. Je pense qu'on l'a tous bien en tête. Nous sommes à la veille des législatives anticipées en France et les factions en présence peinent à convaincre toujours. Alors, tout d'abord, la rhétorique de LFI dépasse-t-elle les bornes ?
Alors, votre question, elle a du sens puisqu'on est en pleine tenaille identitaire dans le cadre de ces élections législatives anticipées entre une parole de effectivement des têtes de gondole politique de la France insoumise absolument débridée en matière d'antisémitisme et à la fois, je vais répondre à votre question, mais je ne peux pas oublier non plus que les extrêmes en France s'alimentent. Évidemment, la parole de l'extrême gauche inquiète. On a atteint des pics depuis le 7 octobre avec le pogrom antisémite qu'il y a eu effectivement en Israël et une parole qui n'a cessé de se déliter de la part des députés de la France insoumise avec une importation ce conflit en France absolument et d'une parole antisioniste qui vient nourrir un antisémitisme avec effectivement une parole de David Guiraud, député de la France Insoumise, qui a importé ici des propos de haine à l'encontre d'Israël, mais qui visait aussi les Français juifs avec une rhétorique complotiste, notamment, je pense, à ses sorties sur les dragons célestes, qui sont ces figures manga de personnes, un petit comité de personnes qui gouvernent le monde. On a également des propos à répétition de Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même la figure de la France insoumise qui marque les Français et qui ne cesse à coup de petites phrases répétitives de divulguer ce que j'appelle de l'antisémitisme d'atmosphère dans la société française. Un coup, ça va être un propos complotiste sur le fait qu'à chaque élection, on a un grand crime antisémite qui sort dans l'actualité. On se rappelle les propos absolument indécents qu'il avait eus lors de la précédente campagne électorale où il avait insinué que François Hollande s'était fait élire à la faveur des attentats de Mohamed Merah, insinuant que ces attentats étaient une construction politique. Récemment encore, il a choqué l'opinion en indiquant que l'antisémitisme en France était résiduel et c'est inadmissible pour nous puisque effectivement il n'est pas résiduel et que nous sommes confrontés en tant qu'association antiraciste à des pics d'actes antisémites jamais atteints en France. On est, comme vous le savez malheureusement, à 1700 actes en 2023 de toute nature, des propos, des violences, des discriminations, du harcèlement à caractère discriminatoire, récemment des crimes sexuels sur une enfant. Je crois qu'effectivement, il y a une parole délétère de la France insoumise dans notre société qui marque beaucoup les esprits en matière d'antisémitisme en France, mais je tiens à dire, c'est important, que nos extrêmes, hélas, en France, s'alimentent et que l'extrême droite n'est pas en reste dans ce sujet des actes antisémites. Il faut aussi l'avoir en tête, l'extrême gauche et l'extrême droite ont, hélas, des vases communicants. Je précise effectivement qu'à chaque sortie, chaque dérapage de Jean-Luc Mélenchon, on a à la rescousse l'extrême droite qui vient soutenir Rivarol, journal d'extrême droite français va soutenir les propos de David Guéraud, va soutenir Jean-Luc Mélenchon, Alain Soral également va régulièrement applaudir les propos d'une Rima Hassan qui, lorsqu'elle évoquera des propos sur la destruction d'État d'Israël de la mer au Jourdain. Enfin, on a effectivement deux extrêmes qui s'alimentent avec des pics, comme vous le notez, de sortie des leaders de la France insoumise.
Alors, donc, vous l'avez dit, l'antisémitisme, c'est un thème qu'on a l'impression qui s'est vraiment agité dans cette campagne électorale, qui fissure les alliances. Et on a également l'impression que la communauté juive, elle est divisée dans ses intentions de vote. Certains appellent à faire barrage au Rassemblement national, c'est le cas d'Anne Sinclair, par exemple. Et d'autres, comme Serge Klarsfeld, appellent à voter Rassemblement national. Vous en pensez quoi de cette division ?
Moi, je représente une association antiraciste. Alors, je ne vais pas être porte-parole de la parole d'une communauté juive, si tant est qu'elle est une expression politique, parce que je rappelle qu'en France, on n'a pas de statistiques ethniques. Moi, je ne sais pas comment votent les Français juifs. Je peux juste interpréter ce que disent des figures emblématiques juives en France de cette élection. Alors, je me désole effectivement qu'une icône de la lutte contre l'antisémitisme qu'est Serge Klarsfeld ait pu avoir des propos qui ne sont pas de dire qu'il faut voter pour le Rassemblement national. Je tiens quand même à contextualiser. Il a juste indiqué qu'en cas effectivement d'un duel au second tour RN-LFI, lui voterait RN. Alors c'est déplorable, c'est vu le parcours de Serge Klarsfeld qui a consacré sa vie à la lutte contre l'antisémitisme, on ne peut qu'être triste que cet homme en arrive à avoir ce type de déclaration, vu le parcours qu'il a et vu la représentation qu'il est pour les Français juifs en France. Maintenant, effectivement, on a des Français juifs qui sont extrêmement inquiets et traumatisés depuis le 7 octobre, avec, je crois, une angoisse existentielle d'avoir à vivre des pogroms en France, tout simplement, les pics d'actes que j'ai évoqués, avec effectivement des pics criminels aussi. Je pense n'être pas à une prise de parole saine, parfois, de leaders comme peut être Serge Klarsfeld. Alors j'entends effectivement qu'il y a une inquiétude. Pour autant, la parole d'Anne Sinclair me paraît effectivement saine. Faire barrage à l'extrême droite, ça doit rester, à mon sens, une ligne et un horizon essentiel pour les Français juifs. Il faut bien comprendre que, comme je l'ai indiqué, ces deux extrêmes politiques s'alimentent et que le danger de l'extrême droite française, du Rassemblement national, n'est pas occulté non plus. Il y a dans le programme du Rassemblement national un axe programmatique de priorité nationale, un axe programmatique de différence de traitement, de discrimination d'État, et on sait très bien que quand on propose de légiférer sur des lois qui différencient les citoyens en fonction de leur nationalité, de leur origine, de leur origine, de leur nationalité, c'est un programme de détestation de l'autre, et que derrière ces programmes de rejet de l'autre, il y a toujours en soi un projet qui apportera l'antisémitisme en son sein. Et l'extrême droite a beau s'en défendre, je tiens à rappeler que Jordan Bardella, plusieurs fois, il a été entendu publiquement, à chaque fois qu'on lui a demandé de condamner les propos de Jean-Marie Le Pen, il ne l'a jamais fait. Je tiens aussi à préciser que dans le programme du Rassemblement national, il y a une série de dispositions sur des différences de traitement sur les binationaux qui toucheront évidemment les Français juifs s'ils ont une double nationalité, notamment une nationalité israélienne, qu'il y a des séries de dispositions sur l'alimentation, l'abattage rituel, sur le halal, le kasher, qui toucheraient effectivement les Français juifs également. Et je crois qu'il ne faut pas forcément penser en juif pour les Français juifs qui sont concernés, mais il faut penser de manière globale, dans une programmatique. Le programme de l'extrême droite est un programme d'exclusion, de rejet de l'autre. Et dans les programmes d'exclusion et de rejet de l'autre, il y a toujours en creux l'exclusion des juifs. Et ça, il faut pas le perdre de vue. Et il faut pas perdre de vue que ces deux extrêmes sont dangereux pour nos compatriotes juifs.
Alors j'aimerais maintenant évoquer avec vous, on l'a évoqué très rapidement, le viol de cette jeune fille de 12 ans par ses camarades pour des motifs antisémites qui a ému la France entière et même au-delà des frontières. Les parents de la jeune fille ont témoigné, ils ont dit qu'il y avait une corrélation claire entre ces actes et les attaques du 7 octobre. Est-ce que vous pensez que le discours des politiques aujourd'hui explique cette montée en puissance d'actes et en fait cette décomplexion de la parole ou des actes antisémites en France?
Alors, je ne sais pas si c'est le discours en soi, mais moi je pense qu'en réalité, c'est l'inaction. On a eu, à compter du 7 octobre, une projection de la barbarie dans l'espace public, dans l'espace numérique, avec, à la vue de tous, même d'enfants, la projection de scènes criminelles avec des jeunes filles qu'on a vues ensanglantées. Je pense à Naïma Lévy, victime de toute évidence de violences sexuelles par les terroristes du Hamas. Cette jeune femme qu'on a vue dans toutes les vidéos qui ont circulé sur le numérique et dans les espaces publics. De ces femmes israéliennes mutilées avec les visages tuméfiés, des traces de sang. Ces jeunes filles dont le Hamas diffuse des vidéos où on les voit effectivement battues, maltraitées et de toute évidence victimes de violences sexuelles. Ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction à la hauteur de la projection de cette barbarie criminelle et de cette barbarie sexuelle sur des jeunes femmes pour dire attention, il y a un danger. Il y a un danger que nos enfants soient exposés à de telles images. Il y a un danger de mimétisme, un danger de banalisation du crime, un danger de banalisation de la haine antisémite. Au lieu de ça, on a eu effectivement des leaders, notamment, principalement la France insoumise, qui sont venus banaliser ces actes, qui sont venus dire que ces actes pouvaient être qualifiés d'actes de résistance, alors qu'il s'agissait d'actes criminels à caractère antisémite et d'actes terroristes. Alors évidemment, il y a une responsabilité de ces hommes et femmes politiques de ne pas avoir dénoncé, de ne pas avoir alerté, de ne pas avoir agi aussi, parce qu'il fallait effectivement réagir à la hauteur de ce que nous avons vu et prémunir en éduquant, en alertant, en condamnant fermement, afin que nos enfants ne soient pas dans un système d'habituation au crime, à la violence, à la barbarie et à la violence sexuelle. Alors cette jeune fille, cet enfant, c'est pas une jeune fille, je tiens à le dire, effectivement c'est une enfant de 12 ans, elle est une victime collatérale de ce délitement de la parole antisémite publique, d'hommes et femmes responsables politiques qui ont banalisé ces actes, en les qualifiant de certains, certains hommes et femmes politiques ont qualifié cette résistance. Elle est aussi une victime collatérale de l'inaction politique, oui, parce que on n'a pas eu en 8 mois de plan d'action à la hauteur du danger qui s'annonçait. Les actes n'ont cessé de proliférer entre octobre et dernier trimestre de l'année 2023. Effectivement, on l'a dit, il y a eu un pic de 1000% des actes. Il aurait été de bonne intelligence de rentrer dans un plan éducatif d'urgence pour rentrer dans les écoles, expliquer, alerter, éduquer nos enfants à prévenir. Il n'est jamais trop tard pour bien faire et il faut absolument que des mesures radicales soient prises en urgence dès maintenant.
Alors oui, pour finalement endiguer l'accoutumance à une violence généralisée en fait.
Tout à fait, parce qu'en réalité, il y a des continuums. On le sait, il y a eu des assises qui ont été faites l'année dernière par le Haut Commissariat à l'égalité sexuelle sur la question de l'exposition des enfants à la pornographie, à la pédopornographie sur le numérique, à la violence de manière générale, à l'habituation aux scènes des crimes, aux scènes terroristes qui peuvent visualiser sur les réseaux sociaux, dans l'espace virtuel, avec une banalisation de ces scènes de crimes, tout simplement. Vous y rajoutez une habituation à la haine raciale, à la haine antisémite, et vous avez, hélas, un cocktail de violence auquel, dès le plus jeune âge, les enfants sont exposés. Des enfants de moins de 10 ans qui sont exposés à cette hypersexualisation, à cette hyperviolence, cette haine raciale, haine antisémite. Et il faut prendre à bras le corps ce danger qui aujourd'hui est explosif, puisqu'on a des jeunes qui sont en moyenne plusieurs heures par jour devant leurs écrans et qui n'ont plus de contre-modèle, sauf le modèle éducatif doit être de l'école publique, de la République, ne peut être que le seul contre-modèle. Sauf que, hélas, les temps de connexion à l'espace virtuel, aujourd'hui, des jeunes sont quasiment équivalents. Hein. Certains ne dorment pas, dorment avec leur téléphone portable scotché à l'oreille, sont supérieurs parfois au temps d'éducation à l'école. Et là, la sonnette d'alarme, elle doit être tirée, parce que ce viol collectif de cet enfant juif par d'autres enfants est d'une barbarie jamais égalée. Et je crois que nos sociétés doivent prendre la mesure du drame et agir en urgence. Nous appelons avec la LICRA à un grand plan national de lutte contre l'antisémitisme et le racisme, évidemment de manière générale, mais à un grand plan national, éducatif évidemment, avec une prise de conscience collective de tous les ministères qui doivent agir chacun dans leur domaine d'action. Mais là, l'urgence est telle qu'il n'y a pas un espace de la vie en société qui est préservé. Évidemment, les écoles ne sont pas préservées, les champs professionnels ne sont pas préservés, l'espace public n'est pas préservé. On l'a vu avec les manifestations à répétition, avec des slogans antisionistes, antisémites, dans les rues, des tags, des cris, des banderoles, notamment devant les universités. J'ai en tête que même les élèves étudiants d'université se sont retrouvés exposés à des graffitis, à des injures, à des pancartes où on indiquait « sioniste hors de nos facs ». Et évidemment, sioniste, là encore, beaucoup ont voulu jouer avec les mots et indiquer que finalement, c'était pas les juifs qui étaient visés. Mais évidemment, quand on vise les sionistes, on vise en réalité les juifs. Ce sont des mots qui sont utilisés dans le cadre de discours haineux comme des synonymes. Et là encore, Raphaël Glucksmann, qui a été effectivement le leader de Place Publique, qui arrive en tête des élections européennes en France, sur l'aile gauche, évidemment, lui-même, il n'a pas été épargné. Hein, le soir même des élections, la gauche appelait à battre le Rassemblement National, mais en criant sur la place de la République que Raphaël Glucksmann était un sioniste. Et ça, c'est plus acceptable. Le débordement de la parole a atteint des pics qui font que, on doit s'inquiéter de ces assignations permanentes des Français juifs à Israël, à l'action du gouvernement israélien, par le truchement de cette expression sioniste, si tant est qu'elle soit négative. Hein. Pour moi, évidemment, être sioniste en soi, si on a un esprit sain, il n'y a pas de raison de péjorativiser l'expression, mais on sait très bien que dans l'esprit de cette mouvance radicale, hein, d'extrême gauche radicale, c'est un propos péjoratif qui incite à la haine. Quand on dit sioniste hors de nos facs, on provoque la discrimination des étudiants juifs. Quand on dit Raphaël Glucksmann est un sioniste et qu'on hurle, on scande ce slogan dans les rues, on insinue que Raphaël Glucksmann fait le jeu du gouvernement actuel israélien, alors même que Raphaël Glucksmann, il l'a dit, hein, il n'a jamais soutenu particulièrement le gouvernement Netanyahou. Donc voilà dans quoi on évolue depuis le 7 octobre, et il n'y a pas un espace de la vie en société qui est préservé, pas un espace.
Eh bien, Galina Elbaz, je pense qu'on peut en parler pendant longtemps, on arrive au terme de cet entretien. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la LICRA, avocate. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.